RCF.
Petit Papa Noël, je vais arrêter le massacre, mais vous l'attendez, vous voyez la période qui arrive, c'est la période de Noël avec son lot de vacances, de cadeaux et de jeux, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans l'univers de l'enfant, émission que nous co-animons avec Emmanuel Guiton, qui est thérapeute spécialiste de l'enfant.
Bonjour à tous.
Et le représentant de tous les papas, aujourd'hui, il a une lourde tâche.
Lourde charge.
C'est Ahmad Saïf qui est en notre compagnie.
Bonjour.
Alors, c'est une période justement qui est là pour l'instant pleine d'excitation, hein, notamment pour les enfants. C'est pas mal de bouleversements. On sait qu'on va... On va avoir une période privilégiée avec les parents. On commence à décorer les maisons. On fait des demandes, on émet des souhaits, on voudrait des cadeaux. Pour certains et certaines, le Père Noël, petit Papa Noël existe. Mais c'est surtout une période où on va jouer et ça c'est votre dada, le jeu, c'est même votre métier. Je vous laisse démarrer là-dessus.
Merci Fred. Ben oui, moi je reprends le premier propos que vous venez de mentionner. C'est une période, d'agitation pour les enfants. C'est-à-dire qu'ils sont déjà sur les starting blocks. C'est-à-dire que ils vont décompter les jours, ils vont attendre impatiemment le soir du 24 ou le 25. Et il y a de grandes agitations. Moi, je préviens toujours les parents en décembre, dire, attention, le mois va être chaud parce qu'il va y avoir beaucoup d'excitation, pas trop d'obéissance, difficile de s'endormir, etc. L'enfant est vraiment dans une ébullition au mois de décembre parce qu'il va atteindre ce bonheur de Noël pour la plupart des enfants. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont découvrir leur cadeau qu'ils ont choisi, parce que c'est pas depuis décembre qu'ils choisissent les cadeaux, je pense que depuis Noël ou avant depuis la Toussaint ou même avant la Toussaint, ils étaient déjà sur les listes parce que les commerciaux sont là pour arroser.
Voilà, c'est ce que vous allez dire, c'est que nos commerçants le savent très bien et qu'on va faire un plein de victuailles au supermarché, vaut mieux pas passer par le rayon jouet parce que on risque d'y rester des heures.
Et donc l'enfant est dans ses rêves de jeu, parce que le jeu, pour reprendre ce que vous avez dit Fred, mon dada en tout cas, quelque chose qui est une passion, parce que moi j'ai découvert il y a fort longtemps la puissance du jeu chez l'enfant et je ne la soupçonnais pas. C'est-à-dire que je l'emmène tous les jours, je l'observe tous les jours, parce que l'enfant ne fait que jouer. Ça, ce n'est pas un scoop de dire ça aux parents, aux professionnels. C'est-à-dire que si on laisse l'enfant un tout petit peu libre, et les pédagogues se battent contre ça, c'est-à-dire qu'ils ont du mal à concentrer l'enfant parce qu'il est toujours dans son jeu. Et qu'est-ce que c'est que le jeu ? Ben, c'est tout ce que l'enfant a envie de faire de façon plaisante.
C'est un apprentissage aussi, le jeu, un apprentissage pour le développement intellectuel, les relations sociales. Bon, j'imagine que pour un enfant, vous ne cessez de le dire, c'est que ça passe avant tout par le corps, donc c'est sensoriel.
C'est ça. Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faudrait, je pense, une trentaine d'émissions pour commencer à aborder
D'accord. On va signer tout de suite.
Non, mais je vais essayer de synthétiser parce que vous avez posé beaucoup de questions en même temps, Fred. C'est-à-dire que je ne peux pas répondre à tout ça en même temps. C'est-à-dire que le jeu, moi, je vais commencer mon intro et synthétiser à l'extrême. C'est-à-dire que le jeu est vital. C'est-à-dire qu'un jeu est là constamment chez l'enfant. C'est-à-dire que je viens de le dire, l'enfant est tout le temps là en train de jouer. Il imagine, il manipule, il gesticule, il est dans son monde, il peut attraper un jeu vidéo dès qu'il peut, il va jouer avec les autres, il va tout le temps jouer, il ne cesse de jouer.
Une question d'Ahmad Saïf.
Oui, tout à fait. J'ai une question surtout sur l'enfant, le jeu de l'enfant. On est tous de grands enfants. Une âme d'enfant en nous sommeille toujours, mais le jeu s'arrête à un moment donné. Il s'arrête assez tôt, en fait, chez l'enfant, peut-être à 12, à 13,
ouais,
à 13 ans. Mais alors, pourquoi ?
Pourquoi il s'arrête ? Parce qu'il a moins d'importance, je vais dire physiologique, pour prendre un terme simple et un peu trop synthétique. C'est-à-dire que ce que je voudrais vous dire aujourd'hui dans ce préambule sur le jeu, c'est que le jeu est un constructeur. Le jeu est un outil pour se construire. Le jeu est indispensable dans son besoin de suivre la vie de l'enfant. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire qu'un enfant va toujours jouer en résonance, en rebondissement par rapport à ce qu'il a vécu. J'ai juste à vous dire, parents, auditeurs que quand l'enfant a vécu une journée un peu mouvementée, son jeu va être très agité. Il va nous agacer par cette turbulence, par ce côté agité, parce qu'il aura ce petit corps, vous l'avez dit Fred, ce sensoriel qui est en ébullition, cette déstabilisation qui l'emmène à rétablir en jouant.
Il y a une phrase que les parents répètent souvent, c'est quand un enfant est dans cette ébullition, on dit oh, « il va bien dormir ce soir ». Il y a ce côté justement de défense.
Peut-être. Mais moi, pour répondre à votre question, Ahmad, c'est-à-dire que jusqu'à 12 ans, c'est une moyenne, d'accord, c'est une statistique, l'enfant a besoin de son jeu pour se réguler, pour se tempérer, pour réagir à ce qu'il vit. Et c'est systématique, c'est physiologique. C'est une intelligence humaine qui est là constamment.
Justement, je rebondis sur la question d'Ahmad Saïf, c'est pourquoi ça s'arrête vraiment à 12-13 ? Qu'est-ce qu'on fait à la place du jeu à partir de 12-13 ?
Alors, c'est bien, c'est-à-dire qu'on ne cesse de parler de cette conscientisation, cette mentalisation, cette puissance du mental qui commence à savoir gérer, c'est-à-dire à savoir réaliser plus, à savoir se gérer dans ses émotions, à savoir se reprendre ou se tempérer sur les difficultés de la vie ou les aléas de la vie. Et donc le mental prend une place qui devient suffisante et le jeu a moins de place. Voilà ma réponse. Elle est succincte, mais voilà le début de réponse.
Et puis plus tard, le jeu devient plus structuré, encadré, organisé. Il y a les jeux de société, les jeux de rôle, les jeux vidéo. Il y a de nombreux adultes qui passent des heures aux grandes dames de leur compagne ou compagnon devant avec la console. Il y a aussi le jeu quand on fait de la musique. Alors que quand on est enfant, le jeu c'est vraiment un réflexe premier, c'est comme respirer.
C'est ça. C'est vraiment un besoin vital et ça correspond à un réel besoin. C'est-à-dire que l'enfant a besoin de jouer et on ne cesse de le dire au cours de ces émissions. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas passer de journée sans qu'il y ait un temps de jeu libre, un temps de jeu où l'enfant puisse bouger et ne reste pas figé. Le jeu vidéo est là, il est possible, mais il y a d'autres possibles dans le jeu qui doivent être variés.
Ahmad Saïf.
Oui, tout à fait. J'ai une question. Donc, j'ai bien compris, en fait. Je peux peut-être reformuler avec mes mots. L'enfant, quand il est jeune, assez jeune, son besoin de jeu est plus physiologique. Mm-hmm. Et ensuite, à partir de 11, 12 ans, 13 ans, son besoin de se divertir devient plus cérébral. Peut-être le cerveau prend le dessus. Et dans ce cas-là, comment bien choisir son jeu? Comment choisir un bon jeu pour l'enfant, parce que là, si on prend la liste au Père Noël, elle est longue. Il faut piocher dedans, mais comment bien piocher?
Alors ça, c'est difficile de répondre. C'est-à-dire que ce qui est très important, moi, la première réponse que je vais donner, c'est qu'il faut vraiment aller chercher l'importance donnée sur certains jeux. C'est-à-dire que la liste est longue, évidemment, elle peut passer plusieurs dizaines, plusieurs dizaines de choix, plusieurs dizaines de jouets. Il faut vraiment détecter celui qui est le plus important au niveau du plaisir, au niveau de l'attirance. Parce que c'est là la réponse. Si je reviens sur notre petit secteur d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va rester sur le jeu vital, sur le jeu essentiel à la construction, à l'équilibre de l'enfant, eh bien il faut aller chercher le jeu qui lui convient vraiment, parce que c'est là le casse-tête, c'est qu'on essaie de trouver le jeu qui sera pédagogique.
Oui.
Et là, moi je vous suis plus. C'est-à-dire que le jeu pédagogique, oui, mais il est là à l'école, il est là à beaucoup d'endroits. Mais si on parle du jeu vital, c'est le jeu qui fait du bien, le jeu qui restaure, eh bien, il faut vraiment l'associer au plaisir que l'enfant a dans une attirance. D'aller chercher un jeu qui convient vraiment. Et c'est là le casse-tête. C'est-à-dire que là, on va certainement se tromper. Moi, je vais tout de suite penser à ajouter qu'il n'en faut pas trop de jeux. Il ne faut surtout pas que les enfants aujourd'hui sont noyés dans la quantité de jeux qu'ils ont dans leur chambre et ne savent plus quel jeu choisir. Et c'est important de restreindre le jeu, non pas le limiter, mais qu'il n'y en ait pas tant que ça, qu'il n'y ait pas pléthore de jeux dans une chambre d'enfant. Il y en a énormément. Attention à cela. Donc la liste, j'espère que les enfants ne m'entendent pas, elle devra être moindre, moins grande que l'appétence, que l'envie, et d'aller chercher le jeu qui scintille le plus dans les yeux de l'enfant, qui est plus important.
Mais si on suit votre raisonnement, dans ce cas-là, on va finir tous à acheter un iPhone et des jeux sur iPhone.
Ça dépend de l'âge, Amad, d'accord? C'est-à-dire que, bien sûr, on peut comment dire, ne pas oublier. Moi, je parle pas souvent du jeu vidéo parce que le jeu vidéo, il est important, mais il n'est pas aujourd'hui, comment dire, il n'a pas encore la place qu'il devrait avoir dans cet équilibre, d'accord? On en reparlera certainement sur d'autres émissions avec un spécialiste que j'ai repéré et qui va venir ici. Ce qui est important, c'est bien sûr de ne pas tomber dans ce piège du jeu que le jeu vidéo. Parce que vous entendez au cours des émissions que le jeu doit être actif, le jeu doit être bougeant, avec des mouvements, avec un imaginaire, avec quelque chose qui emmène l'enfant vers cette régulation. Le jeu vidéo a une quote-part dans cette démarche, mais ne nous piégeons pas sur cette démarche qui serait un cadeau technologique qui ferait plaisir, mais attention, voyons plus large.
Est-ce qu'il y a des types de jeux adaptés à des tranches d'âge? Je veux dire, il y a les jeux d'assemblage, par exemple, il y a les jeux de règles où il y a des règles qui interviennent, donc c'est une autre forme de jeu. Et puis, pour les plus petits, les jeux un petit peu symboliques avec des figurines, tout ça.
Alors, il y a des jeux qu'on a décidé de classer selon les âges, d'accord? Et vous avez entendu ma réponse, c'est-à-dire qu'on a décidé de les classer. Encore une fois, je ne veux pas jouer au vieux bougre qui sait plus que les autres, mais surtout ramener à l'essentiel de l'enfant. C'est-à-dire que un enfant, très tôt, va être attiré par quelque chose qui lui conviendra. Parce qu'il n'y a rien de pire, le jour de Noël que de voir les enfants jouer avec les cartons, plutôt que le jeu qu'on avait décidé, qui nous a coûté cher. Et là, c'est la grande déception, et ça arrive très souvent. Alors que l'enfant sait répéter le jeu qui va lui convenir, d'accord? Et après, moi, je ne veux pas répondre à cette question parce qu'elle est trop ample, mais les commerçants savent guider un petit peu. Mais encore une fois, ne tombons pas dans le piège du jeu vidéo, qui ne serait que cela, et ne tombons pas dans le jeu pédagogique. Parce que c'est là qu'on nous emmène tout le temps.
Et alors vous, Amad Saïf, avant Noël, là, c'est le stress un peu? Vous savez comment choisir?
J'ai pas encore la liste complète.
Merci.
Ils sont en train d'écrire. J'aimerais tester une idée. Je sais pas si elle est bonne, en fait. Et si on choisissait un jeu auquel à la fois les parents et les enfants peuvent jouer?
Ouais, ça, c'est une excellente idée. C'est-à-dire que, encore une fois, il doit y avoir cette notion de plaisir. D'accord? Attention au jeu qu'on va choisir parce que ça peut être un flop. Et ça arrive souvent, encore une fois, parce que moi je me répète dans la réponse. C'est-à-dire que si on se focalise sur ce qui est important pour nous, pédagogiquement, si on se focalise sur le jeu qui nous plaît bien parce qu'on a envie de jouer, ben vous êtes d'accord qu'il y a de grandes chances qu'on soit à côté. Parce qu'on n'aura pas observé le grand plaisir, l'attirance qui est forte d'un enfant qui veut tel ou tel jeu. Même si, quelquefois, les parents disent bah ouais, mais ça va servir à rien, c'est pas très utile, c'est trop bébé. Ben moi j'ai envie de dire, mais tentez quand même. C'est-à-dire que si c'est un petit jeu qui est important pour l'enfant, ben c'est qu'il va servir à cet équilibre, à cette démarche de régulation. Parce qu'encore une fois, le jeu doit servir à ça. Ce n'est pas juste un passe-temps, ce n'est pas juste un échange avec la famille, c'est aussi cette notion que j'apporte aujourd'hui, c'est-à-dire cette notion de se faire du bien, de se lancer dans cette démarche de réparation, de restauration par rapport aux aléas de la vie, je pense, et j'espère que je me fais comprendre.
Oh, tout à fait, c'était fort et clair. Très limpide, comme toujours. Et c'est ainsi
Merci.
que va s'achever cette émission pour aujourd'hui. On poursuivra, hein, je
Bien
pense,
sûr.
Sur cette thématique. Et puis, ben, un petit truc, faites aussi l'inventaire des jeux que vos enfants ont déjà. Comme ça, vous allez éviter les doublons et offrir le énième Big Jim ou la énième poupée.
Ouais,
Grand
sûr.
Merci à vous, Amad Saïf, pour avoir participé à cette émission. Merci à vous également, Emmanuel Guiton. Et on se dit à la
Merci
semaine
à vous.
prochaine.